France Culture.
Philippe Mérieux, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve pour le deuxième épisode de Ces à voix nues. Nous avons parlé dans le premier épisode de votre enfance sévenole puis parisienne, quand vous étiez un peu plus grande, en passant par Avignon. Vous avez découvert la culture populaire au théâtre et au Festival d'Avignon. Pour la deuxième émission, j'aimerais que nous parlions de votre conception et de votre pratique de la pédagogie, puisque vous êtes une, sinon la, grande figure de la pédagogie en France. La pédagogie, ça vous connaît, hein. Vous avez été animateur pédagogique dans un lycée privé à Versailles, pas longtemps, mais quand même, professeur de philosophie en terminale, instituteur, puis professeur de français au collège avant de devenir responsable pédagogique d'un collège expérimental de 1976 à 1986. Vous avez aussi été rédacteur en chef des cahiers pédagogiques de 1980 à 86. Vous avez dirigé l'Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation de l'Université Lumière Lyon 2 de 1994 à 1998. L'Institut national de recherche pédagogique de 98 à 2000, puis l'Institut universitaire de formation des maîtres de Lyon de 2001 à 2006. Vous avez aussi été responsable de la chaîne de télévision éducative Cap Canal dans les années 2000, de la collection Pédagogie chez ESF Éditions. En somme, la pédagogie, c'est toute votre vie. Bon, alors, on a besoin de savoir de quoi on parle, Philippe Mérieux, quand on parle de pédagogie. Est-ce que déjà on en parle au singulier ou au pluriel, et est-ce qu'on différencie la pédagogie de l'éducation ? Je vais partir d'un point de vue très théorique. On va venir ensuite à la pratique.
Oui, on va dire que la pédagogie, c'est la réflexion sur l'éducation. Elle ne se limite pas à la pédagogie scolaire. La pédagogie, c'est étymologiquement l'accompagnement de l'enfant. Le pédagogue, dans la Grèce antique, n'était pas celui qui enseignait, c'était celui qui accompagnait l'enfant chez le précepteur et qui, sur le chemin de l'école et du précepteur, parlait à l'enfant, tentait de lui expliquer l'utilisation qu'il pourrait faire de ce savoir, l'importance qu'il y avait, apprendre la rhétorique ou la natation, etc. etc. Moi, j'ai d'abord travaillé sur la pédagogie scolaire. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé à la pédagogie dans les loisirs, qui me paraît quelque chose de très important. Et puis, je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui que je ne l'ai fait jusqu'à présent à la pédagogie familiale, parce que je crois aujourd'hui que l'importance de ce qui se vit dans la famille est tout à fait déterminant pour l'avenir d'un enfant, même si, évidemment, ça n'est pas la totalité de l'éducation. Alors peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, mes débuts en pédagogie. Moi, je suis né en pédagogie avec quelques grands noms. Alors, on va dire Célestin Freinet. Tout le monde connaît. On connaît moins sa femme Élise, qui a pourtant joué un rôle très, très important auprès de lui. Peut-être un livre paru en 1968 qui s'appelle « La lettre à une maîtresse d'école », écrit par les enfants de Barbiana, où ces enfants qui ont été récupérés par un prêtre un peu marginal dans une école paroissiale du fin fond de l'Italie, écrivent à leur maîtresse d'école qui les a mis dehors et mettent la maîtresse d'école devant des affirmations un peu dures. Vous ne pouvez plus vous retrancher derrière la théorie raciste des aptitudes. Tous les gosses sont aptes à faire leur quatrième et tous sont aptes à toutes les matières. C'est trop facile de dire à un élève « tu n'es pas fait pour cette matière ». L'élève accepte parce qu'il est aussi paresseux que le maître d'école, mais il comprend bien que le maître lui enlève son égalité, sa dignité. Alors évidemment, c'est un texte qu'il faut relativiser. Il est écrit par des enfants exclus. Ce sont des enfants qui ont entre 13 et 15 ans. C'est ce que moi j'ai appelé dans mon travail le postulat d'éducabilité. Postuler que tout le monde peut y arriver, on ne sait pas si c'est vrai, mais on ne sait pas non plus si c'est faux, parce qu'on ne saura jamais si on a tout essayé pour qu'il y arrive. On ne saura jamais s'il ne reste pas une manière de lui expliquer, de lui donner le bon exemple, de le mettre dans la bonne situation qui lui permettrait d'enfin accéder à ce qu'il n'a pas encore compris, à ce qu'il n'a pas encore acquis. Et donc le postulat d'éducabilité, pour moi, c'est pas nécessairement une affirmation vraie, au sens où 2 et 2 font 4, mais c'est une affirmation juste. Parce que, au fond, si je ne postule pas l'éducabilité, alors je vais me retrancher, comme disent les enfants de Barbiana, derrière la théorie raciste des aptitudes. Moi, j'ai toujours conçu que la pédagogie, c'était permettre à chacune et à chacun d'accéder aux formes les plus élevées de la culture. Et j'ai toujours imaginé que la responsabilité des enseignantes et des enseignants, c'était de mettre tout en œuvre, en dépit des résistances et des difficultés inévitables, pour que le plus grand nombre accède à ces formes les plus élevées de la culture. Ça a été pour moi le moteur de mon engagement. Alors, la lettre à une maîtresse d'école, elle a été fondatrice parce que c'est des enfants qui s'expriment avec leur vocabulaire, avec
des
leurs
ados,
excès,
hein.
Des ados, avec leur vocabulaire, avec leurs excès, mais qui, au fond, nous révèlent ce qui est vraiment la ligne de clivage, quoi. Est-ce que je vais dire « tu n'es pas fait pour les maths » ou est-ce que je vais dire « j'ai pas encore réussi à te faire aimer les maths et à te faire réussir en maths, mais je vais quand même encore essayer parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore découvert et qui pourrait t'intéresser. » Voilà. Et pour moi, ça a toujours été le point de départ. Castoriadis dit « tout métier a un foyer mythologique », quelque chose qui fait que c'est pas simplement des compétences et savoir-faire. Alors bien sûr, être enseignant, c'est savoir préparer un cours, savoir corriger les copies, savoir remplir des bulletins, tout ça, c'est bien, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Mais Castoriadis disait, un métier, c'est toujours plus que ça. C'est toujours plus que la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. C'est un foyer mythologique. Le boulanger, son foyer mythologique, c'est un rapport au temps, un rapport au pain qui a un sens dans notre culture. Eh bien, l'enseignant, son foyer mythologique, c'est le principe d'éducabilité. Voilà. Ce principe qui fait qu'on ne désespère jamais de quiconque et qu'on va toujours de l'avant. On peut dire à un moment, j'y arrive pas, mais on ne peut pas dire à un moment, personne n'y arrivera et c'est foutu.
Donc, Célestin Freinet, la lettre à une maîtresse d'école des enfants de Barbiana, dans le foyer mythologique, d'autres grands pédagogues. Vous avez par exemple consacré un livre, parmi la trentaine que vous avez écrit, à Janusz Korczak.
Ah oui, bien sûr.
Alors, qui
le
était
premier, le premier à avoir évoqué la question des droits de l'enfant dès les années 1920. Une figure extraordinaire de la pédagogie. Alors, on le connaît surtout par sa fin tragique, hein, en 1942, alors qu'il est réfugié dans le ghetto de Varsovie. Il a appris que le lendemain, la Gestapo va venir arrêter les 192 enfants juifs qu'il a autour de lui. On lui propose de quitter le ghetto, on lui propose un passeport américain, il le refuse. Et en août 1942, en tenant la main du plus jeune, il va, avec ses 192 enfants, rentrer dans les wagons qui les conduiront ensemble à Treblinka, où ils seront gazés le jour même. Donc ça, c'est la fin tragique qui fait de Korczak un juste parmi les justes. Mais son histoire est extraordinaire. Hein. C'est un médecin qui vit des moments très difficiles pendant la guerre de 14-18, qui voit les enfants abandonnés, qui crée des orphelinats, et qui, au sein de ces orphelinats, va se demander comment aider ces jeunes qui sont un peu déjantés, dirait-on, à accéder à une parole raisonnable, à une parole structurée, et comment leur permettre d'entrer dans une société solidaire. Et il va imaginer des dispositifs fabuleux. Son dispositif le plus intéressant, peut-être, c'est la boîte aux lettres. Korczak était quelqu'un qui finalement disait souvent aux enfants « Tu exiges de moi ceci, mais écris-le-moi et mets ta lettre dans la boîte aux lettres ». Certains enfants disaient, moi je sais pas écrire, ils disaient, mais c'est pas grave ça, tu te fais aider par quelqu'un qui sait écrire, et puis un jour tu apprendras si tu penses que c'est nécessaire. La boîte aux lettres est au cœur de la pédagogie parce que c'est attendre, sursoir, réfléchir, c'est passer par un écrit qui oblige à structurer sa pensée, c'est-à-dire imposer une contrainte qui est féconde et qui fait grandir. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de la pédagogie de Korczak, et moi qui m'a beaucoup appris, cette idée de contrainte féconde. Chez Korczak, il y a cette notion de dépassement qui est absolument fondamentale. Alors moi, quand j'ai commencé à enseigner, dans les années 70, j'étais très imbu des méthodes actives. En particulier, créer un journal, comme l'avait fait Korczak, mettre en scène des pièces de théâtre avec mes élèves, comme aussi l'avait fait Korczak, qui, la veille de la déportation de ses enfants, montait encore une pièce de théâtre de Tagore. Et j'ai mis en place ces méthodes actives. J'étais un simple praticien à l'époque. Et là, j'ai fait des découvertes progressivement qui m'ont beaucoup interrogé. Le théâtre en particulier, bon, je montais des pièces de théâtre dans des situations scolaires où j'étais un peu minoritaire, et j'étais très content parce que il y avait de belles réussites, on invitait les parents, tout le monde était satisfait, la pièce était très réussie. Et puis je réfléchissais, Au fond, à qui je donnais le premier rôle? À celui qui savait déjà parler? Et celui qui savait dessiner, il faisait les décors? Celui qui était à l'aise pour écrire le texte, ou celle qui était à l'aise pour écrire le texte, elles écrivaient le texte. Et puis ceux qui ne savaient rien faire, au fond, ils étaient satisfaits parce qu'ils s'identifiaient au résultat, mais ils n'avaient pas progressé. Et ça, ça m'a beaucoup aussi interrogé. Et toute ma vie, j'ai cherché à combiner la dynamique des méthodes actives qui mobilise les élèves, faire du théâtre, faire un journal, faire une enquête, avec le souci de ne pas entériner les inégalités, de ne pas enfermer les enfants dans une sorte de nature initiale, dans cette théorie des aptitudes que stigmatisent très justement les enfants de Barbiana, mais leur permettre de se dépasser. L'émancipation, c'est pas le fait de dire à l'enfant « deviens ce que tu es », c'est « décide de ce que tu vas devenir ». Et puis, il y a des étiquettes, on t'a mis parfois des étiquettes. Tu n'es pas enfermé dans une étiquette. Moi, je vais dans des classes parfois où j'entends, on me dit « Jules est dyslexique ». Le professeur est intéressé par le fait de savoir que Jules est dyslexique. Il va falloir peut-être lui proposer des exercices particuliers. Il va falloir l'accompagner peut-être par un ou une orthophoniste. Mais ce qui serait terrible, c'est de dire « Jules n'est qu'un dyslexique », parce que Jules, il est aussi grand amoureux de manga, excellent goal au foot, et puis il regarde d'un œil très sensible une fille de la classe. Et quand j'ai dit tout ça, j'ai pas fini de définir Jules. Et donc, ce qui me semble déterminant aujourd'hui en matière pédagogique, c'est surtout de ne pas enfermer, verrouiller le destin de quelqu'un dans une essentialisation prématurée. Et je trouve que là, nous avons du travail et du pain sur la planche aujourd'hui.
Vous disiez, Philippe Mérieux, que vous aviez à cœur, en tout cas dans les premiers temps de vos enseignements, de faire des choses nouvelles, avec des méthodes actives. Et pourtant, il me semble, et là j'ai besoin de vous parce que j'ai l'impression que les choses sont contradictoires, il me semble qu'en 1983, quand vous passez votre thèse d'État, qui définit le postulat de l'éducabilité de tous, vous êtes à ce moment-là très critique avec ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle. Et qu'en même temps, on vous a beaucoup assimilé à cette éducation nouvelle. Alors là, j'ai un peu besoin que vous nous éclairiez.
L'éducation nouvelle, c'est un mouvement qui naît au tout début du XXe siècle, qui se structure en 1921 à Calais. Il y a là un grand congrès qui est le congrès initiateur de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Nous sortons de la guerre de 14, ça a été une boucherie terrible. Des éducateurs qui appartiennent à des sensibilités extrêmement différentes. Il y a là des communistes, il y a là des chrétiens sociaux, il y a là des théosophes, il y a là des gens qui sont plutôt dans la mouvance protestante, des gens qui ont des idées politiques très diverses, se réunissent pour dire plus jamais ça. Et ils se réunissent régulièrement dans des congrès entre 1921 et 1940, la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ne constituent pas une unité idéologique, tous ces gens-là. Entre Neil, qui est pour une école totalement libertaire, sans absolument aucune contrainte, et puis Maria Montessori, qui à l'époque est quand même essentiellement férue de catéchèse, il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus. Ils participent de ce même mouvement de l'éducation nouvelle, mais avec des orientations idéologiques différentes, entre Steiner, l'anthroposophie de Steiner, et puis Célestin Freinet, qui lui a des sympathies pour le Parti communiste auquel il va adhérer. Il n'y a pas du tout de communauté d'idées. Il y a une volonté de faire de l'éducation un outil pour transformer positivement la société. Et cette volonté-là, moi, je la partage. Alors après, au sein de l'éducation nouvelle, je me réserve le droit, comme tout le monde, de regarder ce qui est plutôt quelque chose qui nous fait progresser, de ce qui est plutôt quelque chose qui reproduit des schémas un peu éculés. Et il y a dans l'éducation nouvelle, je le dénonce dans ma thèse, il y a aussi un certain nombre de gens, je pense à Ferrière, qui dit que la liberté donnée aux enfants, ça permet de faire éclore plutôt les facultés des futurs chefs. Et donc de mieux structurer la hiérarchie sociale. C'est pas cette éducation nouvelle-là dans laquelle je me sens à l'aise. En revanche, il y a aussi quelqu'un comme Makarenko qui dit, c'est quelqu'un qui recueille les orphelins après la guerre civile de 1917 en Union soviétique, qui dit « on peut pas enfermer quelqu'un dans une identité ». Et il met en place un système de rotation systématique des tâches avec son principe qu'il appelle le président d'un jour dans toutes les classes, dans toutes les collectivités. Chaque élève préside à son tour la séance tous les jours. Chaque élève est à son tour secrétaire tous les jours. Chaque élève est à son tour pour que chacun découvre d'autres horizons que ceux dans lesquels il s'est en quelque sorte construit. Voilà, moi c'est dans cette dynamique-là de l'éducation nouvelle que je me retrouve, dans le sens où elle est authentiquement émancipatrice. Alors, le mot émancipation est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que l'émancipation, c'est la possibilité donnée à quelques dominés de devenir des dominants. Moi, j'entends ça et j'ai débattu avec des gens qui m'expliquent que l'émancipation, c'est le fait de faire émerger un Einstein dans le 93. Sauf que si on fait émerger un Einstein dans le 93, on va pas sauver le 93. Hein, et puis en plus, il quittera vraisemblablement le 93. Pour moi, l'émancipation, c'est la possibilité donnée à chacun de se faire. Alors, chacun a bien sûr une identité, il y a des contingences. Moi, je suis né en telle année, issu de telle famille. Bon, mais la vraie question que pose l'éducateur à celui qui l'éduque, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui t'a fait ? Mais nous ne sommes pas enfermés dans ce qui nous a fait. Et l'école, l'éducation populaire, c'est le fait d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir des horizons, de donner des perspectives différentes pour que les sujets puissent choisir et se construire librement. Pour moi, l'éducation émancipatrice, c'est d'abord cela. C'est une éducation contre tous les enfermements.
Alors pourquoi, Philippe Mérieux, cette pédagogie-là, celle d'ailleurs dont vous vous revendiquez, celle de Célestin Freinet, d'Ovid de Croly, qu'on n'a pas encore cité, on pourrait le faire, de Janusz Korczak, de Maria Montessori, pourquoi cette pédagogie-là est-elle, aujourd'hui en tout cas, mais depuis quelques années, appelée alternative ? Pourquoi ce sont des écoles alternatives quand on va là ?
Alors peut-être il faut distinguer pédagogie et école. D'abord parce que il y a de la pédagogie Freinet, de la pédagogie de Croly dans des écoles publiques, dans des écoles entre guillemets normales. Il y a aussi un mouvement Montessori dans les écoles publiques qui se développe aujourd'hui. Il y a aussi des écoles alternatives parce que les militants de l'éducation nouvelle, dès les années 20, ont été pris dans un dilemme. Soit on reste dans les grands systèmes éducatifs, mais forcément, on va progresser un peu moins vite, on va devoir faire des compromis. Soit on crée notre propre école parce qu'on veut pouvoir mettre en pratique tout de suite la totalité de ce qu'on pense. Ils ne sont jamais mis d'accord sur cette question-là. Le clivage a toujours traversé l'éducation nouvelle et a toujours traversé les pédagogues. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut mieux rester dans les grands systèmes et les faire progresser peut-être plus lentement, plutôt que de créer des petits îlots privilégiés. Mais je ne jette pas la pierre à ceux qui le font, et qui ont souvent d'ailleurs tenté de faire progresser le système public, et qui s'y sont parfois cassés les dents.
Vous, en tout cas, vous êtes resté, en tant qu'enseignant en tout cas, dans la grande école classique. Vous avez passé une maîtrise de philosophie en 1971, un CAP d'instituteur en 1976, une maîtrise de lettres en 1979. Vous êtes parti à Lyon, où vous êtes devenu responsable pédagogique dans un collège expérimental privé. Cette fois, vous n'êtes pas resté que dans l'école, disons, publique, mais aussi privée. J'ai une question par rapport à ce passage qui a été le vôtre, non pas de l'école primaire à l'université en passant par le collège et le lycée, mais bien plutôt sur le passage de la théorie à la pratique. C'est-à-dire, fort de ces grandes théories pédagogiques, fort de ce que vous aviez lu, fort de votre conception qui était déjà bien forgée, manifestement, quand même vous avez commencé à enseigner, Philippe Mérieux, est-ce qu'avec ça, il est facile de se retrouver devant une classe et d'enseigner, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est-à-dire de passer de la théorie à la pratique. Ou bien, on se rend compte que ça met à mal un certain nombre d'idées qu'on se faisait, et même de hautes et grandes belles idées.
Oui, c'est vraiment une très belle question. Au point que, 10 ans après avoir été nommé professeur d'université, je suis retourné enseigner dans un lycée professionnel de Vénissieux, avec des élèves qui, à l'époque, préparaient un BEP. Et j'en avais tiré un livre à l'époque qui s'intitulait « La pédagogie entre le dire et le faire », où j'essayais de montrer à quel point les idées générales et généreuses et la mise en œuvre de celles-ci, il y avait parfois un abîme. Alors cet abîme est salutaire, hein. Ça nous aide à progresser, bien sûr. En même temps, il ne faut pas se payer de mots. Et moi, pourquoi j'ai tenu à retourner enseigner à des élèves de lycée professionnel? Pourquoi plus tard j'ai enseigné à des gens en situation de très grande difficulté avec ATDR Carmonde, ou pourquoi j'ai travaillé avec des personnes en situation d'illettrisme? Parce que je crois que la pédagogie s'éprouve en face de la résistance des individus. J'ai dit tout à l'heure à quel point le postulat d'éducabilité était fondamental, central pour moi. Mais les individus ne sont pas des sirmoles. Ils résistent. Et cette résistance, je dois la prendre en compte. Et là, j'ai rencontré des compagnons. Je pense en particulier à quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Albert Thierry, qui est un instituteur de la Troisième République, qui écrit un livre qui s'intitule « L'homme en proie aux enfants », où il montre comment lui, jeune instituteur, pétri de ses idéaux, qui veut faire partager l'admiration qu'il a pour Victor Hugo, par exemple, se retrouve en face d'élèves qui comprennent pas, qui en veulent pas, que ça intéresse pas. Les gens sont éducables, mais ils sont pas forcément disponibles à l'éducation qu'on leur donne. Il y a une forme de résistance. Alors moi, j'ai toujours dit la résistance, il faut la prendre au sens positif, comme la résistance dans l'ampoule. C'est ce qui empêche de passer le courant, mais c'est aussi ce qui éclaire. Face à un refus, le pédagogue n'abandonne pas. Il propose autre chose parce qu'il est convaincu que il n'a pas la vérité incarnée, mais qu'il va chercher, qu'il va peut-être trouver quelque chose qui va permettre à l'autre de se mobiliser, de grandir. Voilà, pour moi, la pédagogie, c'est ça. C'est pas dogmatique, donc ça peut se nourrir d'une multitude d'apports, de pédagogues, de sciences humaines. C'est un mouvement, c'est une démarche, c'est un effort pour ne jamais désespérer de l'humain.
J'ai posé ma question autrement, peut-être de façon un peu plus abrupte, Philippe Mérieux. Est-ce que vous avez, dans votre carrière de professeur, hein, où qu'elle soit d'ailleurs, est-ce que vous avez fait des erreurs?
Bien sûr.
Et est-ce que vous avez évolué, changé dans votre conception de la pédagogie?
Alors j'ai fait des erreurs avec mes élèves, comme tout le monde. On fait des erreurs au quotidien. Le problème, c'est de pas s'enquister dans l'erreur. Est-ce que j'ai évolué? Oui, sans doute. Je pense que néanmoins, très tôt, je me suis donné quelques principes simples. Éducabilité, attention à la résistance de l'autre, recherche et inventivité de ce qui va lui permettre de se dépasser, puiser dans la culture, parce que la culture est un outil formidable d'émancipation et que c'est un outil aussi qui permet de mobiliser l'intérêt des élèves. Alors parfois, j'ai pu peut-être être trop radical sur un certain nombre de points. Une vision qui a pu apparaître un peu techniciste quand j'expliquais qu'il fallait très clairement et précisément définir ses objectifs, construire ses séquences. Mais sur le fond, je crois pas avoir beaucoup changé. J'ai le sentiment d'avoir approfondi, d'avoir inventé des choses au fur et à mesure, de m'être intéressé à des secteurs un peu différents. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle, par exemple, qui n'existait pas il y a encore quelques années. Mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup bougé sur l'essentiel. Moi, j'ai vécu avec une de mes filles un moment où elle a été très gravement anorexique. Ça a été un moment d'intense réflexion, parce que l'anorexie de quelqu'un nous met dans une situation complexe. Hein. On l'aime, on veut pas qu'il se laisse mourir, qu'il se laisse aller, mais on est tenté par le gavage. Hein. Face à l'anorexie, on est tenté par le gavage, pour son bien, pour son bien. Et on découvre qu'on ne soigne pas l'anorexie par le gavage. Que la personne a décidé de s'arrêter de manger, qu'elle seule peut décider de recommencer à manger. Et que nous ne pouvons agir que... Nous pouvons agir sur l'environnement, nous pouvons la mettre en situation à la fois de sécurité et de confiance, mais c'est d'elle, au bout du compte, que viendra la décision. Et ça, pour moi, ça a été une expérience personnelle à la fois très douloureuse, mais aussi extrêmement déterminante, y compris dans mon rapport à mes collègues enseignants. À partir d'un certain moment, j'ai pu leur dire très librement, et je crois que ça a débloqué des choses, nous avons une forme d'impouvoir sur la volonté de l'autre. Ça ne veut pas dire que nous sommes impuissants. Nous ne pouvons pas déclencher la volonté de l'autre comme on déclenche le décollage d'une fusée à Cap Canaveral. Nous pouvons créer les conditions pour que l'autre se mette en route.
Vous avez un site internet personnel, Philippe Mérieux, extrêmement riche, fourni. J'aimerais vous poser la question de la gravure qui est sur la homepage de votre site personnel. C'est une gravure de d'Heinrich Pestalozzi et les orphelins de Stains.
Oui, pour moi, c'est un épisode absolument fondateur de la pédagogie. Pestalozzi est un pédagogue disciple de Rousseau qui a envie, dit-il, de donner des mains à Rousseau, c'est-à-dire d'incarner la pédagogie de Rousseau dans le quotidien. Il va d'abord se casser lamentablement la figure parce qu'il essaye de récupérer des enfants un peu loubards dans sa ferme au Neuhof et ça ne marche pas du tout. Les enfants pillent la ferme et l'abandonnent tout seul. Il en tirera les conséquences. Et à un moment, la ville de Stans, en Suisse alémanique, qui a été envahie par les soldats du directoire, est particulièrement à l'abandon. Les hommes ont été tués, il reste quelques femmes et beaucoup d'enfants. Il va tenter de les enseigner dans une situation particulièrement difficile, de pauvreté, de famine et de tout ce qu'on veut. Il va le faire avec une exigence extraordinaire. Sur cette gravure, vous voyez Pestalozzi qui apprend l'architecture à des jeunes filles. Alors l'architecture à l'école, on l'apprend même pas chez nous, et à qui ? À des jeunes femmes. On voit une forme d'éducation qui pose ce postulat de l'éducabilité, tout être est éducable, mais qui l'exprime et qui le manifeste par à la fois une bienveillance et une exigence au plan intellectuel et culturel qui me semble inaugurer la modernité. En fait, c'est la première zone d'éducation prioritaire, Stans. L'éducation progresse quand on s'intéresse aux inéducables. On pourrait dire qu'en éducation, un peu, il se passe ce que Godard dit du cinéma, c'est la marche qui tient la page. C'est ceux qui s'intéressent aux marginaux, les plus en difficulté, les plus handicapés, les plus difficiles, qui font progresser la pédagogie qui va ensuite être utilisée par toutes et tous, pour toutes et tous.
Le marginal que vous êtes, Philippe Mérieux, a obtenu ses lettres de noblesse. Vous parliez dans l'épisode précédent du boulevard Voltaire et de la rue Jean-Jacques Rousseau. Il y a désormais une école Philippe Mérieux. C'est à Plougou-Malène, dans le Morbihan.
Oui, j'ai pas souhaité cela. J'ai travaillé avec une petite municipalité qui chercher à créer une école sur un modèle architectural un peu différent, un modèle pédagogique un peu différent. J'étais très fier et très heureux de pouvoir être associé à cette recherche. Là-bas, sur place, ils ont souhaité donner mon nom à cette école. Je n'avais surtout pas été demandeur. Je ne m'y suis pas complètement opposé parce que ils le souhaitaient. Pour eux, c'était un symbole d'un combat que nous avions mené ensemble. Et maintenant, j'en suis plutôt fier.
Nous avons parlé d'engagement. L'engagement politique, ce sera le sujet de l'épisode 3. Merci et à demain.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Philippe Mérieux, réalisation Manouchak Fachahi, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.